le grain de sable. Pensée globale. Agir local. Le grain de sable. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Le Grain de Sable sur Radio Canus 102.2. Alors aujourd'hui, on fait une émission sur le climat, qui est en fait le début d'une série de plusieurs émissions qu'on va faire sur le climat. Alors c'est des parler climat, lutte contre le changement climatique et notamment avec la vision mobilisation citoyenne. Alors cette émission, cette première émission, c'est aussi en écho avec la soirée qui va se dérouler à partir de 19h, donc juste après l'émission, à l'Alternative Bar, montée de la Grande Côte. Donc une soirée sortir de l'âge des fossiles avec Maxime Combe, donc notre invité, donc dont le train est un peu en retard et qui devrait pas tarder à nous rejoindre. Et donc on aura une deuxième émission dans 2 semaines, alors plus locale, avec la participation d'un membre d'Atacrone et aussi membre de la coalition sur le climat, pour nous parler aussi du plan climat sur la métropole de Lyon. Alors la soirée d'Alternative Bar, sortons de l'âge du fossile, ce sera aussi en écho avec la future COP23 qui aura lieu en novembre à Bonn. Donc est-ce qu'il y a eu des avancées entre toutes ces COP qui ont lieu tous les ans, donc avec Maxime Combe. Et ensuite également des présentations d'actions militantes, donc une action qui se déroulera pendant la COP, une action de désobéissance civile contre le dérèglement climatique qui s'appelle Ende Gelände, et avec le principe de rassembler des milliers de personnes pour bloquer des mines de charbon, ces mines étant la plus grande source d'émissions de CO2 en Europe. Également un retour sur une autre action, Amazon Reef, sur sauver le récif amazonien, qui a été mené début 2017 avec Greenpeace. Et ensuite, on réfléchira à justement quelles prochaines actions, quelles alternatives pour résister ensemble. Et présentation aussi d'une formation qui aura lieu le 18 octobre à Alternative Bar sur l'action non violente. Donc on va, en attendant notre invité, quand même le présenter. Donc Maxime Combe est économiste, il est membre d'ATAC, donc ATAC qu'on ne présente plus, et également membre de l'ITEC, donc qu'on connaît peut-être moins, qui est l'Association internationale des techniciens, experts et chercheurs, et qui rassemble plein de, notamment des professionnels, mais pas seulement, donc urbanistes, économistes, juristes et également des militants, pour créer une nouvelle expertise qui soit justement en contre un peu l'expertise institutionnelle qui nous fait passer beaucoup de choses, et qui est une association qui travaille notamment sur les questions dont on a déjà parlé, tous ces traités économiques, TAFTA, CETA, donc toutes les questions commerce international, investissement, également sur tout ce qui est justice climatique et contre l'extractivisme, donc les mines, le pétrole, et également aussi tout ce qui est questions urbaines, droit au logement, justice sociale.
Ah oui, c'est vraiment quelqu'un d'engagé sur plusieurs fronts. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut difficilement, de toute façon, séparer les différentes actions, hein, climat, justice sociale, justice climatique, tout ça, c'est forcément lié. Alors, Maxime Combe a écrit un certain nombre d'ouvrages, a participé à un certain nombre d'ouvrages collectifs, pour en citer quelques-uns, « La nature n'a pas de prix », un ouvrage collectif « Crime climatique, stop ».
Donc, qui est justement appel de la société civile, donc c'est un ouvrage que Maxime Combe a coordonné, où plein de gens écrivent, donc il y a vraiment différentes approches. Dedans il y a Naomi Klein, Vandana Shiva, Jean Jouzel, Suzanne Georges, Desmond Tutu, Geneviève Azam, donc où on pourra avoir une approche plus sur les questions le crime contre l'humanité, les conséquences aussi de ce qui se passe en termes de climat, également sur tout ce qui est fausse solution, et notamment tout ce qu'on nous invente comme ingénierie du climat, financiarisation,
trouvailles technologiques,
comment on peut se faire compenser ces émissions de carbone en vendant des droits, et également tout ce qui est lutte pour abandonner les fossiles, avec plein de petits encarts justement sur des actions citoyennes, notamment l'action qui avait été menée sur le grand pipeline entre le Canada et les États-Unis, Alternative Bar, et puis plein d'autres.
Oui, alors je reviens à ses écrits, je pense on parlera aussi de son dernier ouvrage, Sortons de l'âge des fossiles, hein, qui est paru en 2015 aux éditions Anthropocène au Seuil. C'est vraiment un ouvrage que vous pouvez lire facilement, c'est passionnant. Et ce qui est bien avec Maxime Combe, c'est qu'au-delà du constat, de l'analyse. C'est quelqu'un qui cherche à dire oui, on peut y aller, on peut faire des choses, et qui insiste beaucoup sur l'inventivité des actions citoyennes. C'est quelqu'un de positif en ce sens. Il écrit aussi, bien sûr, sur le site d'Attaque France, mais aussi vous pouvez retrouver un certain nombre d'écrits sur cette revue d'information en ligne indépendante Bastamag. Je vous invite à aller voir cette revue en ligne, ce site d'information en ligne. Et puis aussi, bien sûr, vous pourrez éventuellement aller voir son blog. Il tient un blog sur le site de Mediapart, vous connaissez le site de Mediapart. Mediapart ouvre son site à un certain nombre de blogueurs, et donc Maxime Combes y tient un blog. Et je vais vous lire d'ailleurs l'introduction de son blog, sur quoi il entend travailler. Alors je vais vous lire cette petite introduction. Contre les hydrocarbures de schiste, les grands projets inutiles et la marchandisation de l'énergie et du climat, nous inventons aujourd'hui les contours d'un monde décarboné, soutenable et convivial de demain. Il n'est temps de sortir de l'âge des fossiles, la transition c'est maintenant. Donc on voit bien dans ces quelques phrases, ce qui est passionnant chez Maxime Combes, c'est ça, c'est le positif, c'est nous pouvons inventer, nous avons d'ailleurs non seulement le devoir, mais le droit d'inventer. Et en plus, on peut créer vraiment quelque chose d'intéressant, et il parle de quelque chose de soutenable et de convivial pour demain. Donc on est vraiment dans le positif, même si le constat aujourd'hui commence à être vraiment dramatique.
Oui, et puis c'est aussi... la façon de pouvoir allier et le savoir et l'action. Parce que voilà, les mouvements pour le climat, c'est des mobilisations, des campagnes qui marchent. Je pense qu'on évoquera avec lui aussi tous les mouvements, notamment de boycott pour le désinvestissement, avec des choses qui ont marché. Et d'ailleurs, Attac y avait aussi participé par rapport à la campagne anti-requin dont vous a parlé, avec des banques à qui on demandait d'arrêter d'investir dans des mines de charbon ou dans la destruction du récif corallien sur de l'extraction dans la mer. Mais il y a également un côté analyse. Voilà, c'est un économiste qui travaille aussi sur la question le capitalisme contre le climat, qui fait aussi le point sur ces traités économiques et internationaux qui ont l'air de passer par-dessus ces traités qu'on a pris, enfin c'est même pas un traité d'ailleurs qui a été pris à la COP21 sur le climat, qui se pose aussi la question de la justice sociale avec les réfugiés climatiques. Donc il y a cette question de la connaissance et de l'action, et de réfléchir effectivement à des alternatives et des expérimentations qui sont des expériences concrètes qu'on peut mettre en œuvre et qu'on peut justement diffuser pour qu'elle fasse boule de neige. Et je vous propose qu'on passe à une petite pause musicale. Donc voilà, qu'on puisse accueillir notre invité, le laisser s'asseoir. On va commencer.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é resto de topo. É pouco sozinho, é caco de vidro. É a vida, é o sol, é a noite, é a morte. É o laço, é o anzol, é peroba do campo. É o nó da madeira, caenga, candeia. É uma tita pereira, é madeira de vento. Tombo da ribanceira, é um mistério profundo. É o queira ou não queira, é o vento ventando. É o fim da ladeira, é a viga, é o vão. Festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão, é um recado, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é pouco sozinho, é estrepe, é prego, é uma ponta, é ponto, é pingo pingando, é uma conta, é conto, é peixe, é gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de topo, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de topo, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Donc nous écoutions Tom Jobim, Águas de Março, les eaux de Mars. Alors on le connaît parce que c'est un chantre de la bossa nova, mais il faut aussi savoir que c'était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux questions écologiques, déjà dans les années 60-70, dans un pays comme le Brésil, où les enjeux écologiques sont extrêmement, extrêmement importants. Pour revenir sur notre thème d'aujourd'hui, donc qui est le thème du climat, donc avec notre invité qui est arrivé. Donc bonjour Maxime Combes.
Bonjour. Et désolé du retard.
C'est pas grave, on a déjà pu justement te présenter, notamment à travers tes ouvrages, et parler effectivement de... On en reparlera d'ailleurs aussi en fin d'émission de la soirée Alternative Art de ce soir, donc sur le climat et notamment sur les actions citoyennes de lutte contre le réchauffement climatique.
Oui, alors moi j'avais envie de commencer par l'actualité immédiate, hein. En disant quand même que depuis la sortie de ton ouvrage, « Retour de l'âge des fossiles », il y a eu un certain nombre de choses qui sont arrivées. Trump a été élu. Aujourd'hui, on est sous la présidence de Macron, qui a invité Nicolas Hulot comme ministre de l'écologie à venir le rejoindre. Et on était assez étonnés, mais il l'a rejoint. Et aujourd'hui a été votée à l'Assemblée nationale la loi Hulot. Qu'est-ce qu'elle apporte cette loi ou qu'est-ce qu'elle n'apporte pas? En quoi est-elle positive ou en quoi est-elle insuffisante?
Effectivement, depuis la COP21, on vit un peu dans une situation paradoxale où on a l'impression, et les gens qui suivent pas ces questions-là de près ont l'impression que ça y est, on a un accord sur le climat et que donc du coup la résolution de la crise climatique est en bonne voie, ou en tout cas que l'essentiel a été fait. La première chose à dire, c'est qu'il faut se souvenir que cet accord, s'il est entré en vigueur, ne porte que sur la période post-2020, c'est-à-dire que les actions qui sont prévues ne viendront rentreront en vigueur après 2020. Et puis, surtout, c'est que réellement, les actions ne sont pas précisément définies dans cet accord. C'est un accord cadre, et donc des négociations se poursuivent aujourd'hui pour savoir comment cet accord va entrer en vigueur de façon technique, sur la question des financements, sur la question comment on aide les pays du Sud pour faire face à la crise climatique, pour réduire leurs propres propres émissions. Toutes ces questions-là, elles sont en train d'être discutées encore au niveau international. Et donc, peut-être que les gens ne le savent pas, mais après la COP21, nous avons une COP22 à Marrakech, et cette année, nous avons une COP23 qui est présidée par les îles Fidji, mais qui n'ont pas lieu aux îles Fidji, qui ont lieu à Bonn, qui est le siège de la Convention 4 des Nations Unies sur le réchauffement climatique. Et cette COP va avoir lieu dans tout début du mois de novembre. Donc ça, c'est l'élément qu'il faut avoir quand même en tête, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un long fleuve tranquille qui nous fait avancer tranquillement vers la résolution de la crise climatique. Des négociations sont en cours. Et bien entendu, depuis la COP21, l'élément le plus fondamental qui a été évoqué et prononcé dans les médias, c'est l'élection de Donald Trump. Et l'élection de Donald Trump, elle est catastrophique à bien des égards, parce que les États-Unis sont en train, au-delà de leur possible sortie ou pas de l'accord de Paris, sont en train de remettre à plat l'ensemble des politiques climatiques et de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ou de transition énergétique qui avaient été, avec difficulté, avec plein de critiques de notre part, mais qui avait été débuté par le président Obama. Tout ceci est remis à plat. Par exemple, aujourd'hui, on a une agence de l'environnement américaine qui, dans son nouveau mandat de travail pour les années à venir, dans le document qui fixe en fait son cadre de travail pour les années à venir, la question climatique n'apparaît plus. Le mot climat n'apparaît plus dans l'agence, l'agence de travail de l'environnement américaine. Et face à cela, face à Donald Trump, on a l'impression que la France, l'Union européenne, les autres pays seraient au firmament de la lutte contre le dérèglement climatique, avec cette fameuse phrase qui est devenue un hashtag « Make the planet great again » d'Emmanuel Macron, qui s'est présenté en fait comme l'anti-Trump. Et ceci est une façon un peu trop réductrice aujourd'hui de voir la situation, où on n'a pas d'un côté le méchant Donald Trump et de l'autre côté l'excellentissime Emmanuel Macron. Ça, c'est la communication qui est construite de cette façon-là, mais quand on creuse et qu'on regarde de plus près, on se rend compte que derrière les belles paroles qui ont été prononcées, aussi bien par l'Union européenne, par la France, mais par plein d'autres pays à l'échelle internationale, finalement, en termes de politique climatique, on n'a pas grand-chose.
En fait, les climato-sceptiques, on n'en entend plus beaucoup parler, mais finalement, ils sont toujours à l'heure.
Mais dans mon bouquin, c'est une des choses que j'essaie d'expliquer, c'est-à-dire que dans l'histoire de la bataille sur le réchauffement climatique, nous avons eu les premiers climato-sceptiques, ceux qui niaient l'existence même du réchauffement climatique. Ceux-là ont fortement diminué et ont beaucoup moins de capacité à intervenir dans le débat public, hormis donc aux États-Unis où, à travers Trump, il y a une résurgence de cette première catégorie de climato-scepticisme. Après, il y a une deuxième catégorie qui a été de dire, oui, le réchauffement climatique est là, en tout cas on a des dérèglements climatiques, mais c'est pas nécessairement l'homme qui en est à l'origine, les activités humaines qui en sont à l'origine. Ça, c'est la deuxième type qui a été extrêmement fort, notamment dans les années 2000, et qui a conduit à ce que chaque année, on repousse aux années suivantes la possibilité de se mettre en action. Et là, les climatologues ont tranché cette question. Aujourd'hui, ils considèrent que l'essentiel du réchauffement climatique et des dérèglements climatiques en cours sont le produit des activités humaines. Et le troisième type, peut-être qui n'est pas un climato-scepticisme, mais qui est un déni de la réalité du réchauffement climatique, c'est finalement toutes celles et ceux, de mon point de vue, qui considèrent que la crise climatique peut se résoudre avec un peu de vernis vert à droite, un peu de transformation à la marge de notre système énergétique, mais que finalement c'est pas extrêmement compliqué, que c'est qu'une question d'un prix de carbone, donc on va mettre une taxe à l'échelle mondiale comme si c'était faisable, voilà, et tous ces gens-là qui nous laissent à penser que finalement la crise climatique on est en train de la régler, c'est facile, les énergies renouvelables sont en train de prendre le pas sur les énergies fossiles et tout cela.
Est-ce qui voudrait dire qu'on n'est pas obligé de changer nos modes de vie, qu'on le réduit par la technique, on pourra le réduire et qu'il n'y a pas...
Pour moi, c'est une forme de déni climatique parce que ça ne prend pas réellement en charge la réalité ce que signifie la crise climatique et de ce que ça implique effectivement en transformation des modes de production, des modes de consommation de notre système énergétique qui sert de soubassement matériel à notre économie mondiale. Et notre économie mondiale, c'est notre fabuleuse machine à réchauffer la planète. Et là, avec l'actualité, on vient de voir une transcription réelle de ce qui est pour moi une forme de déni du réchauffement climatique. Ça ne veut pas dire que les gens le sont tous individuellement, mais que collectivement, en tout cas, ces gens qui pratiquent des politiques publiques qui ne vont pas assez loin sont dans le déni climatique. Et on vient de le voir avec Donald Trump qui dit, quand il est à New York ou quand CNN est en train de le filmer, « Make the planet great again », et dès qu'il n'y a plus CNN, on valide le CETA, l'accord entre le Canada et l'Union européenne, qui va notamment favoriser l'importation de pétrole issu des sables bitumineux canadiens, et qui, à travers l'augmentation du commerce des biens et services, va nécessairement accroître les émissions de gaz à effet de serre. C'est pas simplement nous qui le disons, ce sont les experts même que Emmanuel Macron a nominés pour faire un rapport d'expertise sur le CETA, qui en sont venus à cette conclusion. Deuxième exemple, Nicolas Hulot, qui prend cet engagement dans son plan climat, de dire, ben, nous, en tant que pays, en tant que la France, nous allons interdire et mettre fin à l'exploration et l'exploitation de nouvelles ressources d'énergie fossile. Et c'est absolument clé, cet engagement-là. Parce que si on prend au sérieux la question du réchauffement climatique, on sait aujourd'hui, on l'a calculé, alors les ordres de grandeur peuvent varier, mais en gros, entre 60-80%, peut-être, voire un peu plus, des réserves actuelles d'énergie fossile, de gaz, de pétrole et de charbon, ne doivent pas être exploitées. Donc ce qui est déjà en cours d'exploitation, qui va être mis en exploitation, on sait que de cette quantité-là, il ne faudrait pas en sortir de la Terre 80% déjà. Il est assez logique, quand on prend ces chiffres-là, de se dire, bon, bah, très bien, bon, on va arrêter d'investir un euro supplémentaire pour aller explorer de nouveaux gisements aux quatre coins de la planète, que ce soit en Arctique ou des gisements d'énergie non conventionnelle, comme les gaz de schiste, le pétrole de schiste et tout cela. Donc c'est l'engagement qui a été pris par Nicolas Hulot, il faut le saluer, parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est un objectif qui est approprié, qui est à la hauteur des enjeux et qui est important. Bien entendu, ça reste un message symbolique, parce que la France ne produit qu'1% du pétrole et du gaz qu'elle consomme. Donc 99% de notre consommation vient de l'extérieur du pays, et donc nécessairement, c'est un acte symbolique. Mais donc du coup, nous l'avons pris au mot. Nous avons dit, très bien, Nicolas Hulot, vous voulez mettre fin à l'exploitation et à l'exploration des énergies fossiles en France, et donner un signal au reste du monde, on vous prend un mot, et dans ce cas-là, il faut une loi qui soit nickel, qui ait aucune faille, et qui soit réellement exemplaire à 100%. Et là, la difficulté, on vient de le voir à travers ce débat parlementaire, je vous passe les différents épisodes, mais grosso modo, on aboutit à une loi où on a rajouté des exceptions à tous les étages. Bon, déjà, on a dit que l'arrêt de l'exploitation et de l'exploration, ce sera pour 2040, mais on a mis une exception, c'est-à-dire par exemple le gaz à lac, qui est un peu toute proportion gardée, mais lac en France, c'est ce que Pittsburgh était au charbon aux États-Unis. C'est la capitale française du gaz. Et on dit, exception, pour le gaz de lac, on va pouvoir continuer à produire. Je vous passe les détails. Autre exception, pour ceux qui auraient des concessions, donc des exploitations en cours, qui en 2040 n'auraient pas permis de couvrir les coûts d'investissement initiaux, ben vous pourrez aller plus loin que 2040, parce que finalement, ce qui compte, et ce à quoi on ne peut pas déroger, c'est la liberté d'entreprendre. Et donc, la rentabilité des investissements passés doit être couverte par l'exploitation. Et donc, le message qui est envoyé d'une manière générale, c'est, de toute façon, entre climat et commerce, on choisit le CETA, donc on choisit le commerce. Entre climat, rentabilité des entreprises et liberté d'entreprendre, on choisit la liberté d'entreprendre, parce que ça, c'est sacro-saint, on ne peut pas y toucher. Et là, on est au cœur du problème. Là, on est au cœur des contradictions qui sont aujourd'hui celles du monde dans lequel nous vivons, où on a des politiques, des décideurs, un monde économique qui prétend résoudre la crise climatique simplement par petits pas et en restant à la marge de notre fabuleuse machine à réchauffer la planète qui est l'économie mondiale. Et si à un moment donné, on rentre pas dans le cœur du réacteur, si à un moment donné, on rentre pas dans le cœur de ce qui fait l'économie mondiale, des règles qui l'organisent, de ce qui fait qu'aujourd'hui on a une globalisation économique et financière qui contribue à émettre plus d'émissions de gaz à effet de serre, nous resterons à côté du sujet et de l'enjeu qui est le nôtre, et qui n'est pas un enjeu mineur, parce que c'est simplement les conditions même de pérennité de la vie humaine sur la planète qui sont menacées.
Donc on voit que cette loi, pour faire un clin d'œil à notre émission précédente sur la loi travail, on voit quelle est la hiérarchie des normes, et qu'une loi environnementale et sur le climat, elle passe quand même après d'autres considérations.
Mais tout à fait, mais c'est pas... Finalement, c'est assez... assez normal au regard de d'où vient Emmanuel Macron, de ce qu'il avait proposé dans son programme. Moi, j'avais fait une exégèse de son programme écologique. Un certain nombre d'écologistes, un certain nombre de commentateurs avaient dit « Non, mais il y a quand même des objectifs, des ambitions, il y a des choses qui sont annoncées dans le programme écologiste d'Emmanuel Macron. » Mais il était déjà dit quelque chose d'extrêmement clair dans ce programme-là. C'est qu'à un moment donné, ce qui prime sur par exemple l'interdiction du glyphosate ou l'interdiction des perturbateurs endocriniens, ce qui prime sur la transition énergétique, ce sera toujours de faire que les entreprises françaises soient renforcées par des politiques de compétitivité économique. Et quand on a un arbitrage qui doit être fait entre politiques de compétitivité économique interne ou externe à travers des accords commerciaux internationaux ou à travers des politiques de compétitivité interne telles que la loi travail, et face à cela, des choix qui doivent être faits en matière de transition énergétique, de politique climatique, de politique écologique, de protection de la biodiversité, ou des politiques sanitaires, interdiction des glyphosates et tout ça, le choix il est clair. Et c'était clairement assumé dans le programme d'Emmanuel Macron. Donc du coup, il faut pas être surpris. Mais par contre, ce qui est important là, dans la période actuelle, c'est de faire émerger ça. C'est de faire émerger ça comme un débat fondateur, y compris pour se projeter dans le futur, qu'on considère que l'amélioration de la situation dans notre pays passera par des victoires électorales, qu'on pense que ça passera par des victoires sociales et des mobilisations, qu'on pense parce que ça passera plus par des expériences alternatives, peu importe. Ce qu'il faut faire apparaître dans le débat public, c'est que la question à un moment donné doit être de montrer que l'impératif climatique, l'impératif social, l'impératif sanitaire, à un moment donné, doit primer sur les règles commerciales telles qu'elles existent, sur la compétitivité économique, sur la façon dont on est organisé l'économie. Et c'est ça, en fait, qu'il faut essayer de rendre intelligible au plus grand nombre et de faire comprendre qu'à un moment donné, effectivement, alors on peut le dire de 100 000 façons, moi c'est ma façon de le dire, d'autres vont dire que c'est la puissance de l'argent ou je ne sais quoi, peu importe, mais c'est ça qu'il faut faire apparaître dans le débat public, c'est que on est à côté de la plaque, à un moment donné, quand ce qui n'est pas touchable, ce qui est non négociable, ce qui n'est pas de l'ordre de la démocratie, ce qui n'est pas de l'ordre de la souveraineté populaire, c'est la primauté des règles commerciales, de la compétitivité des entreprises.
En fait, on est au cœur de l'action d'attaque et des autres mouvements intermondialistes depuis des années, hein, c'est-à-dire comment mettre à plat, comment lutter contre la financiarisation, hein, finalement, de la société, mais à tous les niveaux, que ce soit au niveau effectivement environnemental, mais à d'autres niveaux. Alors aujourd'hui, on voit bien que ça fait des années qu'on combat cette financiarisation, qu'on fait un certain nombre de constats, qu'on fait un certain nombre d'analyses, mais aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre audible toutes ces alternatives possibles et cette manière de prendre à bras le corps finalement, oui, et de lutter contre ces lobbies qui sont tout puissants.
Par exemple, dans l'introduction, et si tu pouvais développer, c'était la question des mouvements pour le désinvestissement, où il y a pu y avoir même Attaque qui avait participé et dans la campagne anti-requin dont on parlait, à faire pression sur des banques pour justement qu'elles arrêtent d'investir sur justement des projets d'extraction.
Oui, quand on sait qu'en plus, une action locale peut avoir des conséquences, enfin des retentissements internationaux, oui, j'ai dit ça. Autant on sait qu'effectivement, nos politiques, les États-Unis, l'Europe, etc., aujourd'hui, sont difficiles à contrer parce que finalement, elles font des choix comme le CETA, le TAFTA, etc. Mais on s'aperçoit, et c'est pour ça que c'est quand même intéressant qu'on prenne à bras le corps ce sujet, qu'une action locale peut finalement avoir d'autres impacts à l'international et favoriser d'autres actions. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui, il me semble.
Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde la situation mondiale, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan écologique, sur le plan même y compris démocratique, on a un retour extrêmement fort de toutes les droites conservatrices et réactionnaires à l'échelle mondiale. On peut être effectivement saisi d'impuissance, se sentir un peu sidéré face à la tâche incroyable à laquelle nous devons faire face, et se sentir finalement impuissant face à tout cela.
Et puis aussi se dire que c'est peut-être pas la principale lutte, parce qu'on se retrouve avec d'autres luttes, son emploi, si on parle loi travail, et qu'on oublie d'autres.
Oui, bien entendu, c'est ce que j'essaie d'exprimer, c'est effectivement de se dire que finalement toutes ces grandes masses de choses qu'il faudrait transformer sont finalement bien trop importantes par rapport à simplement essayer d'améliorer notre situation au quotidien, se sauver nous-mêmes dans ce capitalisme généralisé qui ne respecte pas la planète. Et effectivement, on peut avoir ce sentiment-là, et tout l'enjeu effectivement des mouvements sociaux, des mouvements écologistes, des mouvements pour la transition, c'est d'essayer d'expliquer qu'effectivement il faut être lucide sur le constat, c'est-à-dire qu'un manque de lucidité sur l'analyse conduit à faire des erreurs quant aux choix et aux décisions qui doivent être mises en œuvre. Par exemple, on a toute une série d'organisations, d'ONG, y compris écolo, qui, à un moment donné, considèrent que parce qu'on a un petit quelque chose à gagner, ben on va pas être trop critique sur la situation globale. Et ça, de mon point de vue, c'est ne pas être lucide sur la situation, et donc du coup, d'une certaine façon, c'est mentir à la population en expliquant qu'on va beaucoup améliorer les choses simplement en ayant comme projet de simplement négocier avec les décideurs sur tel ou tel point mineur de la discussion. Et donc du coup, tout l'enjeu, c'est d'essayer de montrer comment nous pouvons de là où nous sommes et de ce que nous faisons, que nous soyons engagés dans une AMAP, que nous soyons engagés dans une bataille locale, que nous soyons engagés dans la construction d'une piste cyclable dans notre ville. Et on a des mouvements qui se sont construits à travers ça, le mouvement Bici au Pays Basque. Une de ses actions majeures, ça a été de batailler pour la construction d'une piste cyclable à Bayonne et à Biarritz. Mais sans s'arrêter là, c'est-à-dire en faisant la connexion entre cette bataille locale, qui permet d'impliquer des gens à un niveau extrêmement local, avec les grandes batailles générales sur la COP21, sur la question du désinvestissement des énergies fossiles, sur la question de la transition, de la mise en exergue des alternatives, et la bataille contre les accords de libre-échange. Et tout ce que nous devons essayer de construire, c'est ça. Ce sont des passerelles, des ponts, des liens entre ces différentes strates et espaces où nous pouvons intervenir. Mon propos, c'est absolument pas de dire que demain, l'ensemble de la population doit être BAC+12 en négociation climatique internationale et en mesure d'intervenir dans la COP 22, 23, 24, 25, 26, peu importe, c'est pas ça le sujet. Par contre, que nous soyons en mesure de nous batailler demain sur Lyon pour une extension des pistes cyclables, je ne sais quoi, ou une amélioration, une réduction du flot de bagnoles, ou organiser la reconversion industrielle du secteur des raffineries au sud de Lyon. Bon, ça c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur parce que ça implique des emplois, ça implique des gens qui vivent de ces emplois-là, c'est une reconversion industrielle. Bon, mais ça, on peut le connecter à la fois avec des pratiques du quotidien et avec des enjeux internationaux et plus globaux. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a plein de petites choses qui nous font avancer, qui nous permettent de batailler, qui nous permettent de nous insinuer, d'entrer dans les interstices et dans les espaces contradictoires du capitalisme qu'il existe. Et effectivement, le mouvement de désinvestissement des énergies fossiles est né d'une bataille de ce type-là. Ce sont à la base des étudiants d'universités américaines dont les fonds de placement, c'est-à-dire que les universités américaines, vous savez, elles ont très peu de dotation de l'État, elles ont des fonds d'investissement, en fait, elles ont de l'argent qui est placé sur les marchés, dont la rétribution, la rémunération permet de faire fonctionner l'université au quotidien. Et ces étudiants, au moment là de la COP21, et puis un peu avant, et depuis beaucoup après, sont allés voir leur responsable d'université et leur ont dit, mais attendez, il y a quelque chose qui cloche quand même. Vous avez donc des fonds placés sur les marchés financiers, et ces fonds placés sur les marchés financiers, donc qui rémunèrent l'université et qui la fait vivre au quotidien et donc du coup qui permet de nous former nous, donc de construire le futur de ce pays, d'investir sur le futur de ce pays que nous sommes, vous le faites en investissant la dégradation du même futur, en mettant vos investissements dans l'industrie pétrolière et gazière qui est au cœur de l'ensemble des problèmes climatiques auxquels nous faisons face. Donc nous vous demandons de désinvestir de ce secteur et d'investir ailleurs. Et ils ont gagné dans plein d'universités. Et donc du coup ils ont allié une bataille locale d'une université avec un enjeu moral extrêmement fort. En gros, vous n'avez pas le droit de détruire le futur dans lequel nous allons vivre et que vous prétendez financer à travers notre formation, et une bataille politique extrêmement forte parce que ça permet de désigner quel est l'ennemi. Le problème du réchauffement climatique, c'est que souvent on a du nous partout. Les hommes sont à l'origine du réchauffement climatique. Ouais, quels hommes? Les paysans du Malawi ou ceux qui sont en 4x4 dans le 16e arrondissement de Paris pour aller acheter le pain? Bah, c'est pas la même chose. Et eux, en faisant cet acte-là, cette bataille-là, ils montraient quel était l'ennemi. Ce sont notamment les industries des énergies fossiles. Et à travers ce désinvestissement progressif, alors on n'a pas fait chavirer Chevron, on n'a pas fait chavirer Exxon, on n'a pas fait chavirer Total, mais ça a permis, de mettre des investissements dans d'autres parts du secteur économique, et par ailleurs, donc, d'ouvrir une bataille morale contre, finalement, ceux qui sont à l'origine du réchauffement climatique, et d'où cette idée, ce travail et les chiffres qu'on a pu donner, que 90 entreprises à l'échelle mondiale étaient responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre depuis un siècle et demi. Ben là, ça permet clairement d'identifier quel est l'adversaire. Et cette bataille sur le désinvestissement, aujourd'hui, elle prend une ampleur bien plus grande. C'est-à-dire qu'on a, déjà, les sorties des États-Unis, les mêmes sorties du monde anglo-saxon, et on a des batailles concrètes pour demander à toute une série d'acteurs financiers, des banques, et une bonne nouvelle aujourd'hui, alors on ne va pas révolutionner le monde avec ça, mais une bonne nouvelle qui vient de tomber aujourd'hui, c'est que la BNP Paribas a décidé d'arrêter d'investir. BNP Paribas, c'est la principale banque française, et à l'initiative d'une ONG qui s'appelle les Amis de la Terre, soutenue par plein d'autres organisations, la BNP Paribas vient de décider d'arrêter d'investir dans ce qui est le plus sale, c'est-à-dire dans le pétrole de schiste, dans le gaz de schiste, et dans le pétrole issu des sables bitumineux. Alors, on n'a pas fait tout le chemin, mais on en a fait un bout, et ça permet de continuer à travailler. Et sur cette base-là, tout l'enjeu, c'est d'agréger de nouvelles forces, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'impliquent à tous les niveaux. Demain, il serait incroyable et génial que partout en France, par exemple, alors pas dans toutes les villes parce que ça n'existe pas partout, mais que dans toutes les villes, on bataille pour que les collectivités sortent leur compte bancaire et leurs investissements qu'elles en ont, ou leurs dettes, des banques les plus sales, et qu'elles aillent vers les banques les plus propres. Ben ça, c'est un travail qui pourrait être fait à une échelle locale et qui permet de connecter un engagement local. Je demande à mon maire et à ma collectivité d'être nickel sur le plan du financement des énergies fossiles. Ils doivent plus le financer, ils doivent plus être connectés à cette industrie-là, et de te reconnecter à une bataille globale qui se déroule aujourd'hui pour le désinvestissement des énergies fossiles.
C'est qu'on a vu que la lutte contre le réchauffement climatique a permis quand même de fédérer et de décloisonner des luttes, et c'était pas une mince affaire, et de voir effectivement parler local, global, des choses concrètes et plus morales, mais également qu'on avait un peu ceux qui s'occupaient de transport, voilà, genre leur piste cyclable, ceux qui s'occupaient d'alimentation, ceux qui étaient dans la solidarité internationale, ceux qui étaient plutôt contre les traités internationaux, et qu'on arrive à fédérer. C'était pas des choses qu'on voyait il y a quelques années. Enfin, ça, c'est vraiment...
On a fait un pas.
Construit.
C'est pas fini. Il y a encore un très très gros travail à faire là-dessus, parce que quand on est engagé dans un mouvement, quand on est engagé dans une bataille, quelle qu'elle soit, on a un peu tendance à penser que c'est la bataille qui prédomine toutes les autres. Et donc on a dans les milieux militants, dans les milieux engagés, ce sentiment chez les uns et les autres que, mais finalement, ces discours-là n'ont pas disparu. On entend toujours dans des gens qui bataillent à des échelles locales et qui répondent à ceux qui bataillent contre les traités internationaux, en disant oui, mais tu vois, c'est déconnecté, puis on va jamais gagner, puis c'est trop loin des gens, c'est pas comme ça qu'on va changer les choses. Et de la même manière, dans notre gauche classique, dans les mouvements sociaux, nous avons plein de gens qui considèrent encore, et on l'a vu récemment, ça a été réexprimé, Slavoj Žižek, par exemple, a fait une tribune absolument scandaleuse au début de cette année, disant que tous ceux qui voulaient manger bio, tous ceux qui voulaient inventer des choses au niveau local, finalement rataient le moment historique dans lequel nous vivions, et qui n'était pas aujourd'hui de nature à changer les choses en faisant cela. Bon, mais ça, il faut que ça arrête. Il faut arrêter avec ce discours-là. Et il faut arrêter parce que d'ailleurs, on a des exemples historiques qui montrent que ce discours qui tend à opposer l'engagement local à l'engagement global, la bataille politique à la bataille syndicale, la bataille pour se changer soi-même, avec cette idée qu'on va d'abord prendre le pouvoir pour changer le monde, mais on a vu dans l'histoire que ceci ne crée que de la division et de la capacité et de l'incapacité finalement à avancer et gagner des batailles. Et par ailleurs, dans l'histoire, on a une expérience qui a été bien mise en exergue dans un film qui s'appelle La Sociale, qui est la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est pas simplement une victoire politique. C'est pas simplement, à un moment donné, parce qu'on a eu un ministre communiste qui a dit, nous allons faire la sécurité sociale, je l'ai décidé, je l'ai décrété, j'ai vu que c'était la bonne chose, et je mets ça en place. Non, ça n'a pas été que ça. Ça n'a pas été qu'une bataille syndicale. C'est pas parce qu'il y a eu la grève générale, ou uniquement, ou une série de grèves, qui a permis, à un moment donné, de faire émerger la sécurité sociale comme étant, effectivement, l'horizon collectif pour reconstruire le pays et s'assurer que tout le monde se sente partie prenante d'un même horizon au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La sécurité sociale, c'est un siècle et demi d'expérience. Ça va des bourses du travail de Fernand Pelloutier, de la Seconde Internationale, des bourses où il y avait à peu près tout à l'intérieur de ces bourses du travail. Il y avait le proto-syndicat, le proto-parti politique, mais il y avait aussi, bon, c'était une société machiste à l'époque, mais il y avait des activités dédiées aux femmes, il y avait des activités dédiées aux enfants, et on trouvait tout à l'intérieur. Et donc les gens pouvaient passer de l'un à l'autre. Et le monde communiste s'est construit comme ça. C'est-à-dire que quand on rentrait dans le monde communiste, on rentrait pas tout de suite dans le parti politique, on rentrait dans une association, on rentrait dans un petit truc, on faisait des choses. Et ça a un peu disparu, c'est ça qu'il faut qu'on reconstruise. Et la sécurité sociale, ça a été un siècle ou 60 ans d'expérimentation avec des patrons sociaux. Et aujourd'hui, on a des patrons qui veulent faire les choses bien sur le plan du climat. de la transition. Ben, il faut qu'on travaille avec eux, malgré les contradictions que ça veut dire, parce qu'ils sont insérés dans les griffes du capitalisme. Il y a eu des expériences dans les syndicats, dans les mutuelles et tout ça. Tout ça n'a pas magnifiquement tourné. On sait ce que sont devenues les mutuelles, on sait ce que sont... Mais à un moment donné, la sécurité sociale, fruit de toutes ces expériences-là, de toutes ces batailles, de toute cette accumulation de forces, est devenue l'horizon indépassable qui a été mise en œuvre pour reconstruire du bien commun et un objectif collectif au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Bon, tout l'enjeu, c'est de faire ça en beaucoup moins de temps, de manière beaucoup plus urgente, sur la question de la transition écologique et sociale. Et c'est de faire en sorte que demain, il ne puisse pas y avoir d'autre alternative que celle de mettre en œuvre des politiques qui font primer l'urgence climatique, l'urgence sociale, sur tout le reste. Et on a des expériences. Et donc, quand on innove, quand on invente, quand on hybride des expériences, quand on fait des choses au niveau local, c'est pas simplement des choses pour mieux vivre nous, ou à la marge. Il faut que ce soit pensé, réfléchi, comme des outils qui nous permettent d'éroder le capitalisme tel qu'il existe, même si c'est à la marge, et d'être demain ce qui doit être le soubassement de la reconstruction d'un monde qui soit réellement compatible avec l'exigence climatique.
Moi, je serais assez positive quand même sur l'émergence de tous ces collectifs. Effectivement, il y a une difficulté peut-être à travailler ensemble. On a des vieux travers comme ça, d'actions syndicales, militantes, etc. Là, il y a peut-être aussi un problème de génération, hein, je dis peut-être.
Et puis, il y a aussi quand on connaît une thématique, on a l'impression qu'on ne pourra pas être omniscient et donc on se spécialise.
Mais je trouve qu'avec l'émergence de tous ces collectifs, c'est quand même plutôt positif. Et aussi la manière de s'interpeller nous-mêmes, hein, avec Nuit Debout, avec des occupations comme ça, je trouve qu'il y a quand même une prise en charge, et intellectuellement, mais aussi de manière concrète, un certain nombre d'idées. Et Alternativa, ces mouvements...
Je ne dis pas que ce n'est pas positif, je ne dis pas qu'on n'a pas fait un pas. J'ai justement dit qu'on a fait un pas en avant, mais j'ai l'occasion de débattre dans beaucoup d'endroits. Je l'ai récemment fait dans un espace de gauche classique à l'international, et ces arguments-là m'ont été renvoyés à la figure. Donc je pense qu'il faut continuer à travailler, à avancer, et essayer aussi de construire une théorie politique autour de cela. Et par exemple, dans ce cadre-là, si les gens veulent lire et bouquiner, le bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle « Les utopies réelles » de... qui est sorti à la découverte d'un grand sociologue américain, permet d'expliquer en quoi c'est important et utile de travailler aujourd'hui sur l'eau comme bien commun, sur les réappropriations énergétiques, pourquoi les centrales philo-ageoises photovoltaïques, c'est utile, malgré que c'est aujourd'hui connecté à EDF, c'est connecté au marché global de l'électricité et tout ça.
Mais
tout cela nous permet aujourd'hui, effectivement, d'inventer ce monde de demain d'améliorer notre vie au quotidien et aussi d'éroder des choses qui sont classiques. Et par exemple, la transition énergétique, pour se limiter à ça, ne pourra pas se faire à un moment donné tant qu'on ne s'attaquera pas à ce qui est aujourd'hui la prédominance d'EDF dans la politique énergétique française. Aujourd'hui, c'est EDF qui définit les grandes lignes de la politique énergétique française. Et donc, nécessairement nucléaire. Et par exemple, Nicolas Hulot est certes ministre de l'écologie et de la transition écologique et solidaire. Il se trouve que la semaine dernière, on a découvert que les représentants français au sein de l'Union européenne, donc plutôt du côté de l'administration, plutôt du côté de la haute administration française, dans la mise en application de ce que sont les objectifs que l'Union européenne s'est donné pour 2030, notamment la mise en application d'un objectif de 27% d'énergie renouvelable d'ici à 2030, la proposition française, qui n'avait même pas été validée par Nicolas Hulot, selon ses dires, c'est de reporter à 2027 l'essentiel des efforts, de dire qu'on va réaliser tous les efforts entre 2027 et 2030 et que d'ici là c'est pas le plus important. Donc on a ces longueurs là, on a cette inertie là qui est extrêmement forte, et donc du coup on a quand même devant nous une tâche qui est pas simple.
Et urgente, comme tu disais. Donc il faut encore inventer de nouveaux modes d'action. Effectivement, on parlait, il y a les livres, il y a la connaissance, mais on voit aussi que, et notamment la fédération des mouvements, ça passe aussi par des actions concrètes. Enfin, on fait des choses ensemble, et aussi comment on arrive à élargir le mouvement.
Oui. Et on essaie d'avancer. Là, il faut bien dire qu'il y a quelques difficultés, parce qu'il n'est pas simple, on le voit bien. Par exemple, connecter les enjeux de la loi travail avec les enjeux de la transition écologique et sociale, c'est pas évident. Et on le voit dans le débat public. Nous, on a essayé de venir, par exemple, avec une campagne qui a ses limites, mais qui essaye de porter cette idée que, à travers la transition écologique et sociale, on peut créer 1 million d'emplois en France. À moyen terme, c'est-à-dire pas là dans les 2 mois, mais sur 5 ans, 6 ans,
avant 2027.
Et 1 million d'emplois, c'est une façon non négligeable d'intervenir sur la question, une des questions majeures qui se pose dans notre pays, qui est celle du chômage de masse. Mais pour faire cela, il y a un certain nombre de conditions financières, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut effectivement des investissements massifs et ne pas simplement s'accommoder du simple jeu du marché pour développer les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Il faut qu'il y ait une intervention forte des pouvoirs publics, pas nécessairement au niveau que national, mais également avec une décentralisation extrêmement forte dans une perspective de transition énergétique qui s'appuie sur la réalité des territoires. Mais il y a une deuxième condition, c'est qu'à un moment donné, on ne réalisera pas cette transition énergétique ou cette transition écologique et sociale sans organiser la reconversion industrielle de toute une série de bassins d'emploi. Et qu'est-ce qui a posé problème, par exemple, sous le précédent quinquennat, quand il s'est agi simplement de fermer un réacteur nucléaire, celui de Fessenheim? C'est pas finalement le manque de volonté politique de vraiment fermer le réacteur. C'est qu'à un moment donné, on annonce que c'est un accord entre deux parties qui vont gouverner ensemble le pays et qu'on attend la fin des 5 ans pour essayer de voir comment mettre en œuvre cet engagement-là. Mais ça, c'est faire tout à l'envers. À un moment donné, quand cet engagement est pris, on va d'abord regarder précisément sur ce territoire-là qu'est-ce que signifie de fermer un réacteur. Qu'est-ce que ça signifie du point de vue social? Qu'est-ce que ça signifie du point de vue de la réalité du territoire? Qui c'est qui vide ça? Qui c'est qui... Parce que sinon, si on n'organise pas la transition avec les travailleurs concernés, avec les gens qui vivent de cette économie telle qu'elle est construite aujourd'hui, ben c'est sûr qu'à la fin, dans une perspective de chômage de masse, la seule solution qu'ils ont, c'est de défendre le peu qu'ils ont. Et donc de défendre effectivement le maintien de la centrale nucléaire. Et donc du coup de construire un débat au niveau national complètement hallucinant, où on est en train d'opposer la fermeture d'une centrale à la question de l'emploi, alors qu'il aurait été très bien été possible de penser les deux ensemble et de pouvoir l'organiser et de le prévoir. Voilà. Mais tout l'enjeu par exemple de la transition et de la reconversion industrielle de secteurs importants, y compris comme aurait pu être la reconversion industrielle du secteur de l'ac à travers cette loi sur la fin des hydrocarbures, eh bien c'est de penser cette reconversion industriel, professionnel, et de s'assurer que, par exemple, des droits soient garantis aux salariés qui sont concernés par les secteurs qui sont aujourd'hui à reconvertir. Et ces droits-là, ils sont effectivement à étendre. Et donc, ils sont... cette logique-là est contradictoire avec la logique qui prédomine dans la mise en œuvre de la loi travail. Et donc, du coup, nous avons une exigence, nous, qui est de faire que les droits des salariés soient étendus, sécurisés, pour considérant que c'est en sécurisant les gens qui travaillent dans les secteurs aujourd'hui qui seront impactés par cette reconversion industrielle, c'est en sécurisant ces droits-là, en sécurisant ces salariés-là, qu'on fera en sorte que la transition énergétique ou la transition écologique y sera possible. Ce que fait la loi travail, c'est orthogonal à ça. C'est d'insécuriser les gens, de leur donner moins de droits, et finalement, on est en train de dire que si on prend au mot le gouvernement, il veut organiser la transition écologique et sociale en détricotant le droit du travail, et donc du coup on est en donnant moins de droits aux salariés. Ben, ces salariés-là, si on leur dit on ferme ton usine parce que c'est au nom de l'urgence climatique, ben, ils vont dire non, dégage, nous on n'en veut pas, nous on veut garder notre emploi. Et donc du coup on va de nouveau construire un conflit complètement aberrant dans ce pays en disant qu'il faut choisir entre le social et l'écologie. Ben non, tout l'enjeu c'est de les penser ensemble et de construire une reconversion qui soit en mesure de satisfaire à la fois les exigences climatiques, les exigences écologiques et de sécuriser les parcours professionnels en s'assurant que les gens ne perdent pas l'emploi, ne perdent pas du revenu, ne perdent pas de la qualité de vie à travers la reconversion industrielle des secteurs concernés.
Oui, c'est qu'effectivement la loi travail a créé une insécurité qui est plus forte et à plus court terme que celle de l'urgence climatique pour les gens qui sont impactés.
Je crois qu'il n'y a pas que la loi travail.
Là, en l'occurrence.
Depuis 2 ans, on voit, alors c'était pas le gouvernement Macron, mais peu importe, hein, on voit aussi une recentralisation. On vide, par exemple, les territoires ruraux d'un certain des moyens de survie, de vie, hein, tout simplement, avec la constitution des grosses métropoles. On est en train de vider comme ça tout un territoire des possibilités, tout simplement, d'exister et d'exister correctement avec des vrais projets, avec des... on parle beaucoup effectivement d'économie circulaire, on parle aussi d'agir local, on parle beaucoup de produire localement, etc. Mais en fait, aujourd'hui, avec toutes les mesures qui sont prises depuis, je dirais, oui, la loi MAPAM, eh ben, on est en train d'étricoter tout ce qui était possible de faire à des échelles comme ça, beaucoup plus restreintes, géographiquement parlant.
Un exemple qui est présent sur ce territoire lyonnais ou rhône-alpin. Aujourd'hui, on a une bataille qui est emblématique des questions qu'on vient d'évoquer, qui est la bataille sur la construction de l'autoroute A45, deuxième autoroute parallèle à l'autoroute existante entre Lyon et Saint-Étienne, ou entre les faubourgs de Lyon et de Saint-Étienne, et qui sera donc parallèle, payante à une autoroute qui est aujourd'hui gratuite et existante, bien qu'elle soit effectivement peut-être à rénover. On a aujourd'hui deux discours. On a le discours des milieux économiques stéphanois et lyonnais qui, en gros, explique que c'est avec une nouvelle langue de bitume qui viendra dans les coteaux du Lyonnais, les coteaux du Jarret, et que l'emploi va être développé et que les investisseurs vont investir à Saint-Étienne et que l'avenir économique de Saint-Étienne et de la Loire ne passe que par la construction d'une nouvelle autoroute. Ceci est finalement une pensée qui est celle du siècle passé, qui est celle où l'aménagement du territoire se résumait à prendre une carte et puis tracer des autoroutes, tracer des infrastructures, simplement pour qu'une minorité, notamment pour les LGV, puisse se déplacer de tours plus vite d'un point à un autre, sans tenir compte de la réalité des territoires. Il se trouve que cette autoroute, elle va être construite sur des terres agricoles ou des terres non agricoles qui, en plus d'être riches de biodiversité, riches de leur paysage, sont des terres agricoles qui font vivre aujourd'hui des paysans qui vivent bien de leur activité. On n'est pas sur des paysans qui sont aux abois, des paysans qui vivent la crise agricole comme en Bretagne ou comme ailleurs dans d'autres régions de France. On est sur des paysans qui ont développé des activités extrêmement diverses et qui principalement développent leurs produits et les vendent en circuit court ou en tout cas via des modes de commercialisation qui sont tournés vers le local et qui permettent donc de nourrir la ville de Saint-Étienne, ou une partie, et la ville de Lyon et la vallée du Gier. Et donc du coup, on est, au nom de l'efficacité économique, au nom de la compétitivité économique des investisseurs à Lyon et à Saint-Étienne, en train de détruire une économie qui va bien. Et cette économie agricole, on pourrait plutôt considérer que c'est ça, aujourd'hui, la valeur ajoutée de ce territoire-là. On pourrait plutôt considérer que c'est ça, aujourd'hui, qui fait la force de cette hinterland entre Lyon et Saint-Étienne. C'est de pouvoir préserver des terres qui vont permettre de nourrir les populations. On sait que, par exemple, les grandes villes, aujourd'hui, ont une sécurité alimentaire extrêmement réduite. Les stocks d'alimentation dans une ville, à un moment donné, sont à peine quelques jours et parfois très peu de jours. Et par ailleurs, avec une dépendance aux importations d'aliments qui est extrêmement forte. Défendre ça, sanctuariser ces terres agricoles, investir, et loin d'investir les mêmes sommes que pour la construction d'une autoroute, investir un peu pour construire les filières, s'assurer que ces paysans, et puis d'autres qu'il faudrait installer, puissent alimenter les circuits courts, puissent alimenter la restauration collective à Lyon et à Saint-Étienne, que ce soit la restauration collective publique ou celle des entreprises. Voilà, ça c'est des projets qui font sens, des projets qui créent de l'emploi, qui en créent plus que simplement étaler une nouvelle ligne de bitume au milieu des champs qui sont aujourd'hui ceux du coteau du Jarret et des coteaux du Lyonnais. Et de mon point de vue, c'est une bataille qui devrait être faire sens et qui devrait être jointe par beaucoup beaucoup de forces, y compris sur Lyon, parce que ça, on a là quelque chose d'emblématique. Et si on gagnait sur la 45, ça pourrait renforcer tout plein de luttes et de batailles que nous pouvons mener ailleurs sur le territoire rhône-alpin. Et par ailleurs, ce serait un coin enfoncé dans les politiques qui sont menées par Laurent Wauquiez à la tête de la région, mais aussi par le maire de Saint-Étienne qui ne cherche qu'à faire une chose, c'est-à-dire mettre les pauvres de Saint-Étienne ailleurs, en tout cas ne plus compter sur eux, et simplement de faire une nouvelle Saint-Étienne qui soit tournée vers les riches populations et de nouveaux investisseurs. Voilà, là on a une bataille emblématique. Si on gagne celle-là, on va pouvoir gagner derrière sur d'autres choses et éventuellement imaginer un autre avenir politique à la région ou dans la métropole de Saint-Étienne et de Lyon.
Sachant que Laurent Wauquiez est grand promoteur de la 45 et aussi, par sa fonction régionale, responsable des TER. Et c'est bien aussi le souci, c'est qu'on a des TER, notamment Lyon-Saint-Étienne, qui ne marchent pas bien, et ce qui permet de dire que la 45 est une nécessité.
Oui, oui, ben, dans leur choix d'investissement, dans leur choix de priorité politique, il y a clairement des politiques du passé. On est en train d'imaginer qu'il faut construire de nouvelles autoroutes plutôt que d'entretenir et développer le service ferroviaire. On est en train de donner de l'argent aux chasseurs plutôt qu'aux organisations qui travaillent sur la protection de la biodiversité et de l'environnement. On est en train de, via la région, une politique qui a été utile réellement de préservation des terres agricoles et de soutien aux fonciers agricoles qui ont été menés sur les précédentes mandatures. Et c'est une politique qui est complètement remise à plat et complètement remise en question par cette présidente Wauquiez. Donc là, on a effectivement une politique menée par Laurent Wauquiez qui est antinomique avec les grands objectifs que doivent être ceux des politiques modernes au XXIe siècle. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle je pense que cette bataille contre la 45, parce qu'elle est devenue un enjeu majeur, parce qu'elle a aujourd'hui une dimension nationale par ailleurs, peut être un point de cristallisation de force et de gens venus de différents horizons, convaincus que si on gagne sur cette question de l'autoroute, et on peut gagner là à court terme, ça peut débloquer tout plein de choses à bien des égards et sur bien d'autres batailles qui peuvent être menées aux quatre coins de la région.
On en reparlera peut-être dans deux semaines avec Michel Buisson, hein, puisque l'émission va s'arrêter là. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et on vous retrouve dans deux semaines.